gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous, ici Armand Dubois, la joie au cœur de vous imaginer nombreux à l'écoute pour partager cette prochaine heure avec notre invité. 1946 fut probablement pour la personne que nous accueillons aujourd'hui une année fort importante puisqu'elle déterminera pour l'essentiel le profil de sa carrière. C'est en effet à l'été de cette année-là qu'il se fait offrir un emploi à temps partiel au Quotidien du Matin, le Canada. Un travail qu'il occupera à temps plein très rapidement en devenant chroniqueur du domaine des arts et spectacles. Ainsi, au gré du temps, il aura le bonheur de rencontrer ceux et celles qui allaient devenir les monuments de la chanson française et même de la chanson américaine. De Piaf à Bécaud, en passant par Trenet, les secrets des vedettes de l'après-guerre allaient garnir son carnet de confidences. Un chroniqueur qui a connu de belles années de la presse écrite, nous recevons aujourd'hui quelqu'un apte à nous faire revivre de beaux souvenirs, Monsieur Roland Côté. Bonjour, Monsieur Côté.
Bonjour, Monsieur Dubois.
Alors, effectivement, vous avez connu cette belle époque. Je parlais de 1946. Pourquoi 1946?
Ben, c'est cette année-là que j'ai fait mes débuts dans le journalisme. Voilà comment c'est arrivé. C'est que j'étais étudiant à la Faculté des Lettres de l'Université de Montréal et j'avais comme professeur Maître Jean-Marie Nadeau, qui est le père de Pierre Nadeau. Mm-hmm. Et Maître Nadeau, comme je lui avais dit que j'étais un peu indécis au sujet de ma carrière, alors il m'a dit, ben, est-ce que ça t'intéresserait de faire un peu de journalisme? Alors je dis bien oui. Alors il m'a trouvé un emploi au Journal Canada, parce qu'il faut dire qu'à cette époque-là, Maître Nadeau était membre du conseil d'administration du Journal Le Canada à Montréal, un quotidien qui paraissait le matin et qui appartenait au Parti libéral.
Et vous avez, par la suite, fait presque toute votre carrière comme journaliste. Vous avez été directeur dans des journaux maintenant disparus, mais qui ont quand même connu une belle époque. Je pense au Photojournal. Dimanche dernière heure, vous êtes un des initiateurs de ce journal également?
Oui. En fait, j'ai travaillé au Petit Journal. Après la mort du Journal Le Canada en 1953, M. Jean-Charles Harvey m'a embauché au Petit Journal comme reporter. Par après, comme vous le disiez, j'ai travaillé à Photojournal comme directeur d'information et ensuite comme directeur de l'information au Petit Journal.
Et vous étiez bien préparé parce que vous avez fréquenté au Petit Séminaire des gens qui sont devenus aussi célèbres par la suite. Je pense à Jean-Luc Pépin.
Mais je m'excuse, pas tout à fait au Petit Séminaire, c'était à l'Université d'Ottawa.
À l'Université d'Ottawa,
À l'Institut de philosophie, il y avait Jean-Luc Pépin, il y avait
Pierre de Bellefeuille.
Pierre de Bellefeuille, Bernard Pinard, qui était ministre de la Voirie dans le premier gouvernement de Jean Lesage.
Oui. Alors, des gens qui ont fait, eux aussi, carrière. On va parler, bien sûr, beaucoup de cette première époque de votre carrière, c'est-à-dire au moment où vous étiez chroniqueur de spectacles et des arts, parce que vous avez rencontré une foule de gens, dont Bourvil.
Oui, ben justement, on en parlait tout à l'heure. On parlait d'une petite anecdote qui m'est arrivée. Bourvil était venu chanter à Montréal faire une tournée et un bon jour, je roulais de ma voiture sur la rue Sainte-Catherine et il y avait encore des tramways à cette époque-là et qui j'aperçois sur un îlot au coin de la rue Drummond et de Sainte-Catherine, Bourvil et son épouse. Alors, je m'arrête et je leur dis, ben où allez-vous? Et je me souviens pas où exactement. Ben j'ai dit, montez à bord de ma voiture, je vais aller vous conduire.
Alors, Bourvil va probablement vous chantez la chanson qui pourrait être dédiée à Maître Nadeau. Bonjour, le maître d'école.
Monsieur le maître d'école, vous souvenez-vous encore de moi, d'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage, d'un petit garçon qui a bien grandi et qui maintenant souvent se dit, c'était le bel âge, monsieur le maître d'école. Moi je me souviens encore de vous, joujou, genou, caillou, bijou, et toute la gamme, géographie, récitation, histoire de France et rédaction. Oh, quel programme! Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. Monsieur le maître d'école, je n'oublierai jamais le jour. C'était pendant le dernier cours, dernier bagage, quand j'ai senti poser sur moi votre main qui me disait tout bas, fais bon voyage, monsieur le maître d'école. Y a pas à dire, ces moments-là, on y repense bien des fois, on se les rappelle, et l'on est même tout étonné de ne jamais avoir donné de ces nouvelles. Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. La destinée un peu folle a fait de moi un député. Dans le pays, je suis invité comme un ministre. Je prends des airs de grand seigneur pour épater les électeurs que j'administre. Mais un jour, devant l'école, parmi la foule, vous étiez là. Vous m'avez dit bonjour, toi. Ça m'a fait drôle. Je suis redevenu le petit gars. J'ai murmuré comme autrefois. Bonjour, monsieur le maître d'école.
Avec nous aujourd'hui, M. Roland Côté, qui a été chroniqueur des arts et des spectacles de l'après-guerre, dans les années 40, c'est exact?
Oui, à partir de mars 1947 au Journal de Canada jusqu'à 1953.
Monsieur Côté, un des grands noms de la chanson française, c'est sans nul doute Charles Trenet, qui a influencé la carrière de nombreux chanteurs, y compris des chanteurs qui aujourd'hui sont encore actifs. Vous avez eu la chance de le rencontrer et même de le fréquenter presque personnellement, assez intimement.
Ben, c'est-à-dire, je ne dirais pas intimement, mais en fait, vous exagérez quand même un petit peu. Mais je l'ai rencontré à plusieurs reprises, oui. Je l'ai interviewé, j'ai assisté à son premier spectacle au Canada, c'était au Monument National, qui est maintenant qui est disparu. Mais avec Charles Trenet, c'était un bonhomme excessivement sympathique. Et je me souviens d'une chose, il chantait au Café de l'Est. Et puis un soir, je ne sais pas, il s'était donné à dire un mot en anglais ou une phrase. Et tous les gens sont partis à rire. Et à ce moment-là, ben, ils disent, est-ce que c'est mon accent? Ils ont dit non, mais on lui a dit, vous parlez un peu anglais? Oh, il dit, vous savez, moi, je suis bilingue. Et évidemment, pour nous, le mot bilingue est une connotation un peu difficile, un peu différente. Et tout le public rit, puis Trenet ne savait pas pourquoi. Et moi, je le ramenais dans le taxi après, et il me demande, il dit, pourquoi les gens ont ri quand je disais, j'ai dit que j'étais bilingue? Ben, j'ai dit, ici, au Québec, ça veut dire aux hommes et aux femmes. Alors, en entendant ça, il a commencé à chanter « je suis bilingue ». Et le lendemain soir, au Café de l'Est, il faisait une chanson qui s'appelait « Je suis bilingue ».
Et on dit, M. Côté, que Charles Trenet était assez exigeant au plan des cachets.
Bien, ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait des tournées, une tournée au Québec, et il n'y a pas eu beaucoup de succès, je pense, en fait, de gros succès partout. Et certains... gérant de cabaret où il a chanté, lui ont donné des chèques sans provision. Et alors, un soir, alors qu'il était au Café Continental à Montréal, c'est un cabaret qui était sur Sainte-Catherine, près de Saint-Urbain, il a refusé de chanter avant que le propriétaire, qui était M. Horn, lui paye en argent son premier spectacle au Café Continental.
Alors, il exigeait son cachet préalablement, mais vous avez eu au moins la veine de le rencontrer. Un peu comme, à l'instar d'Yves Montand, on pourrait le chanter.
C'est une aubaine, touchons du bois. Ce que ça gêne, n'ont qu'à penser tout bas. Bah, ça ne dure pas. Ça, pourtant la chance qui m'a souri, je le sais d'avance, est infinie. Quelle insolence, mais quel bonheur aussi. Oui, je suis un vernis dans la vie. Je vais toujours content, quelle que soit la route vers le printemps, je vais loin des soucis, car il s'enfuit quand je ris. J'ai de la veine depuis toujours, j'ai de la veine, même en amour, puisque je l'aime et puisqu'elle m'aime aussi. Oui, je suis un vernis dans la vie.
Avec nous aujourd'hui au gré du temps, Roland Côté, chroniqueur de spectacle des belles années du cabaret et qui a vu naître des carrières importantes, dont celle de Charles Aznavour, au moment où il arrivait ici avec Pierre Roche.
Oui, évidemment, c'est encore un artiste que j'ai eu le plaisir de rencontrer à maintes reprises. Aznavour et Roche, évidemment, avaient fait quelques disques en France, mais ils n'étaient pas tellement connus. Ils étaient venus chanter à New York. Si je me souviens bien, c'était un petit cabaret français qui s'appelait le Blue Angel. Après ça, ils étaient venus à Montréal où ils avaient un engagement au Latin Quarter, un cabaret qui était sur la montagne au sud de ce qui est aujourd'hui le boulevard René Lévesque. Et c'est là que je les ai rencontrés pour la première fois. Et je les ai interviewés, comme je faisais pour des vedettes qui venaient à Montréal, pour mon journal.
Est-ce que vous deviniez à l'époque qu'Aznavour deviendrait ce grand de la chanson?
Non. Évidemment, à ce moment-là, il chantait avec Pierre Roche, mais je trouvais qu'il y avait énormément de talent, que leur chanson était extraordinaire. Et
c'était nouveau genre par rapport à la chansonnette française qui existait alors.
Ben oui, puis je sais pas si vous vous souvenez de ça. La fameuse chanson « Le feutre topé », une chanson bien rythmée que les deux chantaient ensemble. Et justement, après leur spectacle au Latin Quarter, Charles Azamou me demande, est-ce qu'il y aurait un endroit où on pourrait s'amuser ici, parce qu'après, on veut faire quelque chose pour notre spectacle. Ben, je dis, écoutez, moi, je vais vous amener au Faisan Doré, qui est une boîte française, dont, et aussi, je faisais la publicité. Alors, pour moi, c'était, je faisais une pierre deux coups. Alors, j'ai amené Charles Aznavour et Pierre Roche au Faisan Doré. C'est là qu'ils ont rencontré Jacques Normand, avec qui ils sont devenus très,
oui,
très amis.
Tout à fait.
Et également, je l'ai présenté au propriétaire de Montmartin. Et ils ont, M. Martin, qui était un homme d'affaires, puis qui a vu que ces gens-là pouvaient être intéressés à chanter dans son cabaret, leur a fait une offre. Et après leur un engagement à Québec chez Gérard, ils sont revenus chanter au Faisan Doré pour 3 mois, puis je peux vous dire qu'ils faisaient tout un spectacle.
Et tantôt, nous entendions Yves Montand qui doit sa carrière beaucoup à Édith Piaf. Mmh. Vous parlez d'Aznavour, vous avez mentionné une pierre deux coups, mais voilà que nous allons aussi faire une pierre deux coups, puisque nous entendrons Charles Aznavour et Édith Piaf dans cette très belle interprétation de « Plus bleu que le bleu de tes yeux ».
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer, même en furie, ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Si un jour tu devais t'en aller et me quitter,
mon destin changerait tout à coup, du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur.
Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin à l'amour, même l'éternité de lui serait courte. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
On a tort de penser, je sais bien, au lendemain.
À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apporte tes yeux.
Vous êtes à l'antenne de Radio Ville-Marie, Armand Dubois, en compagnie de M. Roland Côté, qui a déjà été directeur du dimanche dernière heure, c'est exact?
Oui.
Mais auparavant, vous avez eu une très belle carrière de chroniqueur artistique. Parlez-moi un peu de votre rencontre avec celui que l'on surnommait l'homme aux yeux bleus, Frank Sinatra, qui est venu à Montréal. Peut-être ne le savions-nous pas, mais Sinatra est bel et bien venu à Montréal.
Je crois à plusieurs reprises. Il avait chanté au Forum, je pense dans les années 40, quand il était au fait de sa carrière. Et il est revenu chanter à Montréal, je pense que c'est en 1952, au cabaret chez Paris. C'était pas le chez Paris actuel, c'était vraiment un cabaret de luxe où il y avait de grandes vedettes américaines qui
se produisaient. Et là, on parle du milieu des années 50.
Oui, oui, c'est ça. Je pense que c'est en 1952, si ma mémoire est bonne. Et Sinatra, je dois vous dire, ne voulait jamais parler aux journalistes. D'abord, il y avait eu des conflits avec eux, et il avait bien dit au gérant du chez Paris, il n'y a pas question de donner des interviews à qui que ce soit à Montréal.
Et déjà, à l'époque, on le disait bagarreur.
Oui, et c'est juste. Alors, finalement, moi, j'ai réussi à convaincre Jerry Taylor, qui était le gérant. J'ai dit, écoute, tu me connais, dis à Frank Sinatra que je ne parlerai pas de sa vie privée. Moi, je veux rencontrer, jaser avec lui. Alors, il me dit, c'est bien, je vais faire tout mon possible pour que ça se réalise. Finalement, il m'appelle, à ce moment-là, j'étais au journal, au Petit Journal. Il me dit, oui, j'ai Frank Sinatra a accepté de vous rencontrer. Alors, entre deux spectacles.
Mais quel genre de confidence retire-t-on d'un homme comme Sinatra à cette époque-là?
Bien, c'est un bonhomme. Pour moi, ce soir-là, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il était très simple. D'abord, c'est un bonhomme qui adorait Fernandel, qui m'a dit, moi, je vois les films de Fernandel, tous les films de Fernandel. Ensuite...
Parce que lui-même avait commencé à faire du cinéma
oui,
aussi.
Oui, oui, oui. Et justement, il venait de terminer un livre qui s'appelait « From Here to Eternity ». Et là-dedans, il voyait pour lui un rôle. Et faut souligner aussi qu'à cette époque-là, la carrière de Sinatra avait plongé un peu. Il était au creux de sa carrière. Et il m'a dit, en retournant à Hollywood, je vais voir le président de Columbia Pictures et lui suggérer de tourner « From Here to Eternity ». Voici, en fait, ça s'est réalisé. Et « From Here to Eternity » est devenu un film très célèbre qui a gagné plusieurs Oscars.
Et qui a relancé sa carrière.
Oui, puisque Sinatra, à ce moment-là, a gagné un Oscar pour son rôle de soutien dans « From Here to Eternity ».
Et Dieu sait quel monument il est devenu par la suite.
Exactement. C'était extraordinaire de rencontrer un homme comme ça. Et le plus drôle de tout, la conversation s'étirait. Et je me souviens encore du maître d'hôtel du maître de cérémonie qui disait « Here comes Mr. Sinatra ». Il était encore avec moi en train de causer de Fernandel.
Monsieur Côté, quelle chanson nous avez-vous apporté de Sinatra qui a une connotation bien particulière pour bien des gens?
Ben, c'est la chanson « My Way », évidemment.
Cette chanson qui a été composée par Claude François, adaptée par Polenka et qui est devenue la chanson fétiche de Frank Sinatra.
And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. Saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew.
But through it all, when there was darkness,